Voilà, bonjour à toutes et à tous, rebonjour, bonjour à ceux qui étaient là hier, il y a quelques visages voilà, que je reconnais, je n'ai pas encore la mémoire complètement effacée, et puis bonjour à ceux qui n'étaient pas là hier. Alors on va vivre un culte un petit peu particulier, une suite de cultes un petit peu particulière, dans le sens où je vais reprendre quelques chants de témoignages, que j'ai déjà chanté hier. Alors ce sera peut-être bien pour ceux qui n'étaient pas là, enfin je sais pas, c'est peut-être présomptueux de dire ça. Voilà, et puis pour ceux qui étaient là, eh bien, ça fera une sorte de piqûre de rappel pour rappeler des thèmes essentiels qu'on a pu partager et rappeler hier. Alors hier je vous avais rappelé notre condition d'humain sur cette terre, que nous étions des voyageurs sur cette terre, que nous étions de passage sur cette terre, et que Jésus nous invitait en fait à ne pas nous amasser des trésors sur cette terre, mais nous amasser des trésors dans le ciel, parce que ce qu'on amasse dans le ciel, eh bien les mites et la rouille ne détruisent pas et les voleurs ne percent pas ce qu'on peut amasser dans le ciel, c'est éternel. Et Jésus nous disait, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, je vous propose de continuer ce culte par ce chant que j'ai chanté hier, ce chant qui s'appelle « Voyageur » et qui illustre notre vie de voyageur, qui illustre ma vie de voyageur, puisque j'ai grandi aussi avec les gens du voyage. J'ai grandi dans une roulotte qui va bientôt apparaître comme ça. Alors, c'était une roulotte un petit peu plus moderne que ma roulotte qui est sur le parking de l'église, mais j'ai vécu avec des gens du voyage qui vivaient vraiment en roulotte. Et puis le hérisson, j'explique parce que tout le monde ne le sait pas en fait, mais c'est le petit animal qui est le symbole des gens du voyage. Voilà, le hérisson. Pourquoi cette illustration? Alors on continue le voyage avec ce chant « Voyageur » où le monde nous propose sa gloire, mais Dieu nous propose une gloire éternelle. Amen. Le monde m'a proposé sa gloire, pour que je croie en son espoir. Il m'a présenté tant de projets illusoires, tant de leurs, alors je lui déclare, écoute, je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre, ma richesse est ailleurs, Dieu est mon vrai bonheur, mon seul point de repère, ma prétention la meilleure. Le monde m'a promis tout l'honneur, si je lui soumettais mon cœur, si je devenais son plus loyal enchanteur, alors je lui ai fredonné sans peur. Je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre, ma richesse est ailleurs. Dieu est mon vrai bonheur, mon seul point de repère, ma prétention la meilleure. Le monde voulait m'offrir son or, pour qu'en échange je l'adore, que je sois fidèle serviteur jusqu'à ma mort, mais aujourd'hui je lui chante encore. Je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre, ma richesse est ailleurs. Dieu est mon vrai bonheur, mon seul point de repère, ma prétention la meilleure. Je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre, ma richesse est ailleurs. Dieu est mon vrai bonheur, mon seul point de repère, ma personne la meilleure. richesse est ailleurs, c'est voilà ce qu'on a rappelé hier et que on peut se rappeler tous les jours. Où est notre richesse? Alors, en voyant ces petits dessins que je trouve magnifiques, hein, je le dis d'autant plus librement que ce n'est pas moi qui les ai faits, et que si je vous dessine le moindre petit bonhomme, ça va vous faire déprimer pendant, pendant des semaines, tellement je dessine mal. Mais voilà, je trouve ces images magnifiques, et si vous connaissez le monde du voyage, eh bien peut-être vous trouvez qu'il y a une sorte de paradoxe en fait dans cette image. C'est un hérisson qui tire la roulotte d'un manouche, parce que c'est vrai que en fait chez les manouches on aime bien les hérissons, on les aime beaucoup, on les aime vraiment vraiment beaucoup, mais vous voyez bien grillés, bien assaisonnés, bien cuisinés sur un bon feu de camp. Voilà, alors je rassure les âmes sensibles, les âmes véganes, etc. Je n'en mange plus, j'en ai plus mangé depuis des années, il y a prescription. Mais voilà, ça peut sembler effectivement relever d'une impossibilité, en fait, qu'un hérisson tire la roulotte d'un manouche, parce que le pauvre hérisson, avant d'être devant la roulotte, il est passé par le feu de camp, il est en train d'être digéré, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais simplement pour dire eh bien, que je crois au miracle. Je crois au miracle. Et ce miracle, c'est le miracle de la transformation de cœur. En fait, on est du verbe naître avec un cœur de pierre et un cœur qui s'endurcit au fur et à mesure de notre chemin sur cette terre en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on subit, de ce que l'on fait vivre aux autres. Notre cœur s'endurcit. Et puis, voilà, un jour, on a le choix. On a pu avoir le choix pendant à de nombreuses occasions pendant notre chemin sur cette terre. On l'a encore aujourd'hui de changer de cœur, de changer de cœur. J'aime bien ce texte du prophète Ézéchiel qui dit « De la part de Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et les lois du Seigneur, voilà, on l'a rappelé hier, Gilles l'a encore rappelé ce matin, j'ai pris voilà, ça en photo, je l'ai mis en story sur Instagram ce matin, ça m'a parlé, m'aimes-tu? Les lois du Seigneur, les commandements du Seigneur, c'est l'amour. M'aimes-tu? Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Alors, quand on a ce cœur nouveau, ce cœur changé, ce cœur de pierre qui est changé en cœur de chair, eh bien, on peut aimer, commencer à aimer à l'image, avec le secours de l'amour de Dieu, et on peut aller colorer ce monde avec l'amour de Jésus. Et c'est ce que dit ce petit chant qui suit, qu'on a chanté hier, que vous avez chanté avec moi, et dont le refrain dit « Colorer le monde avec l'amour de Jésus ». Alors, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas si on fait une répétition ou on se lance comme ça, et puis voilà, parce que je vous invite à chanter le refrain avec moi. Le refrain, il est très simple. Le texte du refrain, c'est colorer le monde avec l'amour de Jésus. Et la musique fait comme ça.
Colorer le monde, avec l'amour de Jésus.
Ok, c'est le texte du refrain. C'est très simple, mais c'est tout un programme de vie pour lequel Dieu veut nous aider. Alors on veut le chanter. Je vous invite à me rejoindre sur le refrain de ce chant, colorer le monde avec l'amour de Jésus.
Quand je vois la grisaille de ce monde qui déraille, quand j'entends les bruits de guerre sur cette terre qui se désespère, alors j'ai envie de crier jusqu'à vous réveiller. Arrêtez de courir et de vous étourdir dans vos sombres désirs et colorez le monde, avec l'amour de Jésus. Quand je vois la souffrance de ce monde, quand j'entends les cris de détresse sur cette terre où les frères se blessent, alors j'ai envie de crier jusqu'à vous réveiller. Arrêtez de courir et de vous étourdir dans vos sombres désirs et colorer.
colorer le monde, avec l'amour de Jésus. Colorer le monde, avec l'amour de Jésus. Quand j'entends tant de mensonges sur cette terre que l'égoïsme ronge, alors j'ai envie de crier jusqu'à vous réveiller. Arrêtez de pourrir et de vous étourdir dans vos sombres désirs et colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Colorer le monde, avec l'amour de Jésus. Colorer le monde avec l'amour de Jésus.
Colorer le monde avec ce magnifique amour de Jésus, mais nous avons le choix. Et avant d'aller colorer le monde avec l'amour de Jésus, il faut colorer nos vies avec son amour, n'est-ce pas? Et c'est un choix qui est laissé à chacun. Et comme j'ai raconté un petit peu hier, j'ai grandi dans une famille où la foi m'a été enseignée, l'amour de Dieu m'a été enseigné, mais à l'entrée dans l'âge adulte, j'ai fait le choix de vivre ma vie, de partir comme ce fils perdu dans cette parabole que Jésus racontait, cette histoire que Jésus racontait, l'histoire du fils perdu, partir comme ce fils prodigue. Et pourtant, après avoir vu des magnifiques choses avec mes amis mes amis manouches de la mission Vie et Lumière, j'ai vu des choses magnifiques, j'ai vu des vies transformées, des bandits de grand chemin qu'il ne faisait pas bon croiser, c'est même pas le soir au coin d'un bois, c'est en plein jour dans la journée dans une rue, mais qui devenait, avec l'amour de Jésus, qui avait ce cœur nouveau et qui devenait doux comme des agneaux. J'ai pu voir des miracles, des résurrections, des enfants qui cliniquement, un bébé qui cliniquement était mort, décédé, le constat était fait, et puis l'assemblée qui s'unit dans la prière, et ce bébé qui, comme Lazare, qui revient à la vie. Et pourtant, c'est des choses qui m'intéressaient, je trouvais ça sympathique, mais qui ne touchaient pas mon cœur. Et puis, à l'entrée, à l'âge adulte, en fait, j'ai choisi de vivre ma vie, d'aller partir, parce que Dieu nous laisse le choix. Et il y a ce verset dans la Bible qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais il y a ce conseil. Il y a ce conseil essentiel, vital, ce conseil « choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité ». Et cette invitation, elle résonne encore pour chacun d'entre nous, pour ceux qui n'auraient pas encore choisi la vie ce matin. Choisis la vie. Choisis la vie, et si tu es loin de la maison de ton père ce matin, alors entends cet appel, reviens à la maison de ton père. C'est ce que dit ce chant, reviens à la maison de ton père. Je sais tu es parti loin, croyant pouvoir tout gagner, sans penser au lendemain, avide de t'amuser. Je sais tu croyais trouver ce dont tu avais besoin, mais les années ont passé.
passé, que te reste-t-il dans les mains? Alors reviens, reviens à la maison. Depuis si longtemps je t'attends, et je scrute l'horizon. Alors reviens. L'amour s'est nourri de pardon. Je sais, tu as tout gaspillé au long de tes jours de fête. Lentement ton cœur s'est vidé des richesses offertes. Je vois tes habits souillés et ton manteau déchiré. Mais j'ai pour toi un vêtement blanc que je garde précieusement. Alors reviens, reviens à la maison. Si longtemps je t'attends et je scrute l'horizon, alors reviens. Depuis si longtemps, l'amour s'est nourri de pardon. Tu as peur sur le chemin du retour, et je peux lire dans ton cœur chacun des appels au secours. Mais vois la porte grande ouverte, la lumière encore allumée, toute ma maison t'est offerte. Je veux te savoir en sécurité, alors reviens. Reviens à la maison. Depuis si longtemps je t'attends, et je scrute l'horizon. Alors reviens. Depuis si longtemps, l'amour s'est nourri de pardon.
L'amour s'est nourri de pardon. Et lorsque j'étais au bout du chemin, que j'avais gaspillé toutes ces richesses que mon père m'avait données, j'étais dans la crainte. Je me disais que peut-être c'était trop tard, que j'étais allé trop loin, que mon père m'avait oublié. Mais c'est à ce moment-là, eh bien, qu'a résonné cette parole de la Bible qui parle d'oubli, justement, qui parle d'oubli, d'un éventuel oubli de Dieu pour ses enfants. Et qui dit, Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. Mais le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Une femme cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? Eh bien, à supposer qu'elle l'oublie. Moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. Alors, cette parole de la Bible nous invite, où que nous soyons sur notre chemin de vie, eh bien, à revenir sans crainte, La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Nous pouvons revenir sans crainte parce que, eh bien, notre nom est gravé au creux des mains de Jésus-Christ. Et dans ces mains-là, eh bien, nous avons le pardon de tous nos péchés, quels qu'ils soient. Alors ce petit chant qui dit « Ne crains rien » et que je vous invite à chanter avec moi, le texte va s'afficher. On l'a déjà chanté un petit peu hier, mais là j'ai mis la totalité du texte. Et comme ça, vous pouvez le chanter avec moi. Ne crains rien. Ne crains rien car tous les jours, je serai avec toi. Ne crains rien car j'ai ton nom gravé au creux de mes mains. Alors ne crains rien. Ne crains rien. Tous les jours, je serai avec toi. Je garderai ton chemin, alors ne crains rien, ne crains rien, même si la tempête fait rage, ma fidélité traverse les âges, alors ne crains rien. Ne crains rien, mon amour pour toi est éternel, jamais je n'oublierai Jérusalem, alors ne crains rien. J'ai ton nom gravé au creux de mes mains, alors ne crains rien. Amen. Ne craignez rien car tout est accompli. Et Jésus est venu il y a 2000 ans pour apporter cette bonne nouvelle, pour prendre soin des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais, pour dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, et pour annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple. Alors, avant de prendre un temps sur un texte biblique, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant « Jésus », parce qu'il est encore là. Il est encore là pour venir dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, ces chaînes d'esclavage du péché dont lui seul a le pouvoir de les briser. Jésus, il est là, Jésus.
Tu as entendu ma prière faite dans le noir. Je ne m'amusais plus au fier, quand j'ai dit tu es mon espoir, quand j'ai appelé ta lumière au secours de mon destin noir. Je t'ai donné tous mes hivers, tu as transformé mon histoire. Tu es Jésus, Jésus. Tu as effacé mon péché, payant le poids de mes fautes. Et lorsque ton sang a coulé, comment garder la tête haute? Immense amour, tu as pardonné, me proposant d'être ton hôte, de suivre sur les trois
pas entier, et que l'on marche côte à côte. Tu es Jésus, Jésus, la bonne nouvelle pour les cœurs brisés, la bonne nouvelle. Tu as soigné mes meurtrissures, tu as pansé toutes mes plaies, calmé mes peurs, détruit ces murs. Maintenant partout je dirai, je chanterai cette aventure. Le monde saura qui tu es, toi le rocher de mon futur. Tu es Jésus, Jésus, la bonne nouvelle pour les cœurs brisés, la bonne nouvelle, ils seront consolés. Tu es Jésus. La bonne nouvelle pour les prisonniers, la bonne nouvelle, car leurs chaînes vont tomber. Tu es Jésus, oh Jésus.
Voilà, on va prendre un temps autour de la parole de Dieu. Alors, Gilles m'a dit, c'est bon, tu as jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures de l'après-midi, on pourra faire le goûter en prolongement de l'agape, etc. Donc, vous êtes prêts pour quelques heures de partage biblique? Voilà, ce chant Jésus commençait par « Tu as entendu ma prière faite dans le noir ». Et j'aimerais ce matin qu'on puisse prendre un peu de temps sur une histoire de la Bible, bien sûr, une histoire qui commence un soir, une nuit, voilà, dans l'obscurité. Une histoire, voilà, l'histoire d'un homme déjà d'un certain âge, un homme sage, un homme estimé par tout le peuple d'Israël, un homme qui faisait partie d'un tribunal suprême, le Sanhédrin, à l'époque où Jésus vivait. Le Sanhédrin, c'était une sorte de tribunal suprême, je ne sais pas à quoi on pourrait le comparer aujourd'hui, une sorte de cour de cassation, conseil d'État ou autre, je ne sais pas. Mais voilà, et cet homme faisait partie de ce tribunal parce que, et c'était un homme sage, parce que pour faire partie de ceux qui rendaient des jugements justes, il fallait une certaine sagesse, un certain âge, une certaine expérience. Cet homme est avancé en âge, et oui, c'est un sage parce qu'il paraît que lorsqu'on prend de l'âge, On peut devenir soit un vieillard avec les épaules courbées, avec beaucoup de regrets, avec le regard tourné vers le passé, avec des accusations, des rancœurs, etc. Ou alors on peut devenir un sage qui profite en fait de son expérience de vie, de ses épreuves de vie, pour conseiller, pour aider, pour accompagner. Et cet homme, c'était un homme sage qui montrait l'exemple à suivre, en quelque sorte, qui croyait en Dieu, qui croyait que les instructions données par Dieu à l'homme pour vivre la vie pour laquelle l'homme est fait, c'est-à-dire une vie où il n'y a pas la compétition, la tromperie, l'égoïsme à tous les coins de rue, mais une vie de partage, eh bien, il croyait que ces instructions étaient bonnes, il s'efforçait de les vivre, de les suivre et de les enseigner, mais son cœur résonnait quelque peu à cause d'un grand vide, une soif, une insatisfaction, une soif de quelque chose de plus que simplement le respect d'une loi. Son cœur résonnait, était un peu dans une sorte de crainte, cette crainte de ne pas trop savoir s'il était vivant. Alors, vivant physiquement, oui, bien sûr, mais je parle vivant spirituellement parlant. Il n'avait pas l'assurance d'être vivant spirituellement. Et cette pensée de l'éternité que Dieu avait mise dans son cœur, puisque Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme, eh bien, là, lui amenait à une certaine crainte. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette crainte ce matin d'être vivant. Encore une fois, bon, je parle spirituellement, vivant physiquement. Si vous n'étiez pas vivant physiquement, vous ne seriez pas là, n'est-ce pas? Mais spirituellement, êtes-vous bien vivant ce matin? Cet homme, il a entendu parler d'un... Oh, allez, j'ose l'expression, un petit jeune d'une trentaine d'années. Voilà, parce qu'à l'époque, eh bien, 30 ans, c'était l'âge à partir duquel on pouvait commencer à parler avec un minimum d'autorité. Avant 30 ans, il fallait plutôt... poser des questions, écouter, se laisser instruire. Alors on a un petit peu de mal à comprendre ça maintenant, à notre époque où des enfants de 10 ans font régner la terreur dans les familles et des fois dans les églises. Mais pas ici, les enfants sont sages et je ne donnerai pas l'adresse où j'en ai vu. Donc, voilà. Mais voilà, 30 ans à l'époque, c'était l'âge où on pouvait commencer à partager son point de vue, c'est donner son avis avec un minimum d'attention. Et ce petit jeune, pour reprendre cette expression-là, c'était quelqu'un de très particulier, c'était une sorte de voyageur qui parcourait les chemins d'Israël et qui faisait des choses magnifiques, qui guérissait les malades, qui délivrait les gens tourmentés, qui prenait la justice, qui chassait les démons, qui délivrait les gens qui étaient sous l'emprise du diable, quelqu'un qui dénonçait l'hypocrisie, la fausse religion, et puis quelqu'un qui vraiment vivait ce qu'il disait, qui n'avait pas de décalage entre ses paroles et ses actes, comme il y a bien souvent un décalage dans ceux qui font de très beaux discours et puis dont on apprend que la vie cachée, elle n'était pas aussi brillante, n'est-ce pas? On peut parler de la politique, on peut parler de... mais regardons à notre cœur, n'est-ce pas, en premier. Alors je pense que ce matin, vous avez déjà compris de qui je voulais vous parler. Si vous connaissez un petit peu la Bible, je vous parlais de Nicodème. Ce Nicodème qui un jour se décide à aller voir ce jeune d'une trentaine d'années, ce jeune qui s'appelle Jésus, bien sûr. Mais Nicodème, c'est un homme âgé, c'est un homme qui a la reconnaissance, un peu l'admiration, le respect de tout le peuple d'Israël. Alors, c'est difficile pour lui de reconnaître que son cœur sonne creux, que son cœur sonne vide, qu'il y a tellement de questions, d'insatisfaction et de soif. Alors, par la crainte du « qu'en dira-t-on ?», eh bien, il se décide à aller de nuit voir ce Jésus. Il a tout ce qu'il faut, Nicodème, mais c'est difficile pour lui de reconnaître que son cœur sonne creux et qu'il n'a pas l'assurance d'être vivant. Comme peut-être pour vous, je ne vous connais pas, mais peut-être est-ce difficile pour vous, alors que vous avez, matériellement, tout ce dont vous avez besoin, rien ne vous manque, mais il y a quelque chose dans votre cœur qui sonne creux et c'est difficile de le reconnaître, alors quelquefois on fait semblant. Et cet homme, avec la fierté, un peu d'orgueil, la fierté, la peur de reconnaître qu'il ne sait pas trop, finalement on pourrait résumer, il ne sait pas trop où est le chemin, la vérité et la vie, eh bien il vient de nuit voir Jésus. Il vient peut-être en rasant les murs, j'imagine, ce moment-là où il a peur d'être vu par les autres. Il vient en étant vraiment attiré, fasciné, comme s'il il n'avait pas d'autre choix que d'aller voir ce Jésus, un peu comme, je ne sais pas si vous avez fait de la plongée, mais quand on est au fond depuis un petit bout de temps, un petit moment, et puis qu'on sait que là, il n'y a plus d'air dans les poumons, il faut vite remonter à la surface pour enlever toute l'oppression des profondeurs et remplir tout à nouveau ses poumons d'un grand bol d'air frais qui enlèvera justement l'oppression des profondeurs. C'est plus fort que lui, Nicodème. Il avance, peut-être avec un peu de crainte, mais en se disant, bon, j'ai quand même quelques solides connaissances sur la loi de Dieu, la loi de Moïse, donc si ça tourne mal, je saurais peut-être en découdre avec ce Jésus. Mais la rencontre se fait dans le silence de la nuit, et je vous propose de... on lira cet échange en deux étapes. Une première étape dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, nous lirons les 8 premiers versets, Jean 3, versets 1 à 8, et puis nous lirons la suite ultérieurement. La Bible nous dit « Il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et qui lui dit « Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nous arrêtons ici notre lecture que nous reprendrons un peu plus tard. Déjà quelques réflexions. Dans le silence de la nuit, ce dialogue qui s'engage, on pourrait tout de suite dire que Jésus aurait pu ne pas recevoir Nicodème, n'est-ce pas? Parce que la nuit, en principe, on dort. Voilà. C'est un grand principe de vie, la nuit on dort, enfin bon, sauf peut-être pour ceux qui ont des métiers particuliers, mais la nuit on dort, Jésus aurait pu dire, écoute Nicodème, j'ai passé toute ma journée à marcher sur les chemins d'Israël, enseigner, guérir les malades, écoute, repasse demain, là je suis fatigué, la nuit on dort. Mais bon, c'est peut-être ce qu'on dit aux enfants quand ils ne veulent pas dormir, n'est-ce pas? Je ne sais pas si, il fait nuit, il faut dormir, mais je ne sais pas si ça marche, hein, mais bon voilà. Mais Jésus ne s'offusque pas, parce que Jésus, on peut aller le trouver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et il vous recevra. Il vous recevra les bras grands ouverts. Et puis, une autre réflexion qui m'est venue à l'esprit en lisant ce texte, je me suis dit, Jésus aurait pu, en voyant ce grand homme arriver, il aurait pu faire quelque chose qu'on aime bien faire, nous qui sommes, par rapport à Jésus, enfin, on est rien du tout, lui c'était le roi serviteur, et puis nous, on est des serviteurs inutiles qui nous prenons pour des rois, bien souvent, mais on aime bien, vous savez, quand on décerne une contradiction dans la vie de quelqu'un, qu'on voit quelque chose qui ne va pas, on aime bien, vous voyez le geste que je fais, casser, on aime bien casser. Peut-être que Jésus aurait pu dire, mais qui est-ce que je vois arriver là dans l'obscurité de cette nuit là, c'est pas ce grand Nicodème, ce fameux docteur de la loi, mais qu'est-ce qui se passe Nicodème, t'es pas tout à fait sûr de ce que tu enseignes, t'as un petit coup de blues, qu'est-ce qui se passe alors, voyons Nicodème, mon pauvre Nicodème. Mais vous savez, non, Jésus ne reçoit pas ainsi ceux qui viennent à lui, parce que l'œuvre de Jésus, elle est basée sur l'amour et sur le respect. Sur l'amour et sur le respect. C'est voilà cette image du roi serviteur qu'on a tellement de mal à vivre pour nous qui sommes des serviteurs inutiles, en tout cas moi, je ne sais pas ce que vous pensez de vous. Mais voilà ce dialogue qui s'engage avec ce discours un peu flatteur de Nicodème, je pense, qui dit voilà, Jésus, forcément Dieu avec toi, Dieu est avec toi puisque tu fais de grands miracles. Mais Jésus qui ne se laisse pas entraîner dans cette sorte de débat-là, de reconnaissance ou autre, mais parce que, vous savez, Jésus, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre son temps. Et plus direct et plus précis que Jésus, il n'y a pas. Jésus, je dirais, c'est le plus grand psy, celui qui connaît le cœur de l'homme, donc le plus grand psy, et vous pouvez rajouter derrière psychologue, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste, etc., voilà, que la Terre n'ait jamais connu, parce que, bon, il peut y avoir des bons psychologues, bien sûr, qui vont aller chercher les raisons du malaise, mais la solution, est-ce qu'un psychologue va pouvoir vous la donner? Un psychologue humain va pouvoir vous la donner? Je ne suis pas tout à fait sûr. Et je dis que Jésus, c'est le plus grand psy que la Terre n'ait jamais connu, parce qu'il sait les raisons profondes du malaise, mais il a une solution, il a un chemin de guérison, il trace un chemin, voilà, il a la réponse au malaise qu'on lui apporte. Il voit qu'au fond de Nicodème, au fond du cœur de Nicodème, la réalité de son cœur, au-delà des apparences, au-delà de la surface, De l'apparence de Nicodème. Ce Nicodème qui sait beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui a une tête vraiment bien, bien pleine, comme on dit, mais il y a quelque chose dans les paroles de Jésus qui sont tellement plus profondes et plus belles et plus interpellantes que les paroles des plus beaux orateurs de l'époque. Et c'est ça qui attire Nicodème. Nicodème, c'est quelqu'un qui est très riche, c'est un homme très riche, qui possède beaucoup de choses. Et puis il regarde ce Jésus. Et ce qui l'interpelle, c'est que Jésus, il n'a aucun endroit où reposer sa tête. Il est toujours logé à droite, à gauche, chez des amis, des connaissances, etc. Mais ses paroles sont tellement, tellement riches, tellement, tellement bienfaisantes. Alors ce Nicodème qui déborde de richesse, il ne comprend pas. Nicodème, c'est quelqu'un qui bénéficie du respect, de l'estime de tout le monde, de tous ses contemporains. Mais il n'arrive pas à comprendre ce Jésus-Christ qui quelque part se moque de ce que les autres peuvent penser de lui. Jésus se moque, enfin, entre guillemets, Jésus ne se moque de personne, bien sûr, mais vous comprenez l'expression, Jésus n'accorde pas d'importance au regard et au jugement qu'on peut porter sur lui, parce que le but ultime de Jésus, c'est de rester dans la vérité et dans l'amour. La vérité et l'amour. Et les paroles de vérité et d'amour que Jésus adresse à Nicodème, ce sont ces paroles surprenantes, c'est « Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème, tu dois naître de nouveau. » Quelle réponse surprenante, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui ont déjà vécu cette nouvelle naissance, vous savez ce que cela veut dire. Mais imaginons-nous, ne connaissant rien de cela, quelqu'un qui vient nous dire « Voilà, écoute, il faut que tu naisses de nouveau. » Avouez que c'est déroutant. Avouez que c'est incompréhensible. Intellectuellement, c'est juste inimaginable. C'est pas compréhensible. Et Nicodème ne comprend pas, malgré son intelligence. Et oui, parce que comprendre le fait de naître de nouveau, c'est pas une histoire d'intelligence. C'est pas une histoire de quotient intellectuel. Parce que sinon, d'un côté, il y aurait les intelligents. Il y aurait ceux dont le quotient intellectuel est supérieur à je ne sais pas combien exactement, à partir de combien on est intelligent ou pas. Je vais vous faire une confidence, j'espère que ça ne sortira pas des murs, mais j'ai jamais osé faire ce fameux test de QI parce que j'ai un petit peu peur du résultat. Voilà. Comprenez, de ne pas être dans la moyenne supérieure, mais plutôt être... voilà. Alors, mais ce n'est pas une histoire de QI, parce que sinon d'un côté il y aurait les intelligents à qui il serait réservé une sorte de destinée particulière parce qu'ils sont intelligents. Et puis de l'autre côté, il y aurait moi et puis d'autres gens. Et puis ma foi, ceux-là, ben, ils sont pas très fut-fut, alors que, ben, voilà, qui se débrouille. Non, ça marche pas comme ça. Et puis je pense à cette parole de Jésus qu'il adressera, cette prière de Jésus qu'il adressera à son père quelque temps plus tard, où il dira... Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Aux enfants. Redevenons comme des petits-enfants pour comprendre ces paroles de Jésus. Donc comment comprendre ces paroles de Jésus? Comment naître de nouveau? Comment cela peut-il se faire? Et c'est cette question que Nicodème pose à Jésus au verset 9. Comment cela peut-il se faire? Et Jésus reprend, on peut reprendre ce dialogue avec Jésus et Nicodème, cette réponse de Jésus à partir du verset 14 de ce même chapitre 3. Jésus dit à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est, du verbe haïr, la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé chacun d'entre vous ce matin. Chacun d'entre vous, vous êtes aimé de manière inconditionnelle par Dieu. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous en avez la certitude au plus profond de votre cœur que vous êtes aimé de manière inconditionnelle et de manière éternelle par ce Père d'amour ? Car Dieu a tant aimé chacun d'entre vous ce matin. Car Dieu a tant aimé tout Saint-Quentin, toute l'Aisne, toute la Picardie, toute la France, tout le monde entier. Bien sûr que Dieu n'aime ni les péchés de l'homme, ni ce système mondial tellement injuste, tellement égoïste, tellement violent. Mais il aime tous les êtres humains, il désire qu'aucun ne périsse, que tous naissent de nouveau. Mais ces paroles de Jésus, où il dit « Mais la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. » Alors, la question est simple. C'est pourquoi préférer rester dans l'obscurité? Pourquoi préférer rester dans l'obscurité? Pourquoi refuser de venir à la lumière du Christ? Parce que naître de nouveau, on en a parlé, ce n'est pas une histoire d'intelligence. C'est plutôt une histoire de vouloir vivre dans la lumière, d'accepter de venir dans la lumière. Parce que vivre dans la lumière, il faut accepter une chose, c'est l'humilité. Il faut accepter de vivre d'humilité en arrêtant de se cacher, en arrêtant de cacher certaines choses de sa vie, etc. Parce que tout le monde peut réaliser la soif intérieure, tout le monde peut avoir ce désir de voir sa soif apaisée, mais tout le monde ne vient pas dans la lumière parce que c'est dur d'accepter de venir humblement, avec humilité, sans se cacher, tel que nous sommes dans la lumière du Christ, qui nous révèle tel que nous sommes. Tout le monde peut dire « Je n'ai pas la certitude d'être vraiment vivant, spirituellement parlant. » Tout le monde peut avoir envie de cette vie que Dieu donne, cette vie spirituelle et cette vie pour l'éternité, mais tout le monde ne fait pas ce pas, parce que c'est difficile d'accepter de venir humblement dans la lumière du Christ. Alors, quelquefois, on préfère faire semblant. Faire semblant comme si on trouvait, voilà, comme si on n'avait pas soif, ou comme si on trouvait l'apaisement de notre soif ailleurs. Et vous savez, les sources amères, il y en a en nombre dans ce monde. Faire semblant comme si on trouvait l'apaisement de notre soif ailleurs, dans le travail, dans les richesses de ce monde, dans les soirées étourdissantes, Et dans ces lendemains où on se rappelle même plus ce qu'on a fait la veille, et on se réveille avec la gueule de bois, pardonnez-moi l'expression, mais surtout avec le cœur, l'âme, de plus en plus détruit, de plus en plus fragile, de plus en plus meurtri, de plus en plus déchiré. On refuse de se reconnaître mort spirituellement et assoiffé. On refuse cette nouvelle naissance par orgueil. Parce que intellectuellement, ça nous semble illogique que quelqu'un ait payé à notre place le prix de notre liberté. Ça nous semble illogique que ce châtiment qui nous donne la paix soit tombé sur Jésus, que ce soit par ses meurtrissures que nous soyons guéris de cette maladie du péché. Et on refuse de le comprendre intellectuellement parce que, bon, ici on est en France, on est cartésien, hein, le cartésianisme. On est cartésien, on est fier de l'être. Mais vous savez, moi qui suis d'origine suisse, en Suisse c'est pareil, on refuse cela. Et puis j'ai visité pas mal d'autres pays, c'est le même raisonnement, on refuse cela. Le cœur de l'homme est le même partout. En France, en Suisse, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, le cœur de l'homme est le même partout. C'est un cœur de pierre, comme je le citais tout à l'heure. On ne comprend pas, on refuse de venir à cette lumière, et plutôt que d'accepter cette nouvelle naissance, plutôt que de naître de l'esprit, eh bien, on préfère rester à des choses qui se voient, une belle apparence, des choses humaines, des choses de la chair, même si on a conscience de notre cœur qui sonne creux, qui est insatisfait. On peut tout changer autour de nous en pensant que c'est ça qui va changer notre vie, qu'on va aller mieux si on a telle ou telle autre chose dans notre vie. On peut changer de travail en se disant « bon, je vais avoir plus d'argent, ce sera plus facile ». Et puis j'aurai des nouveaux collègues aussi, parce que l'ambiance dans mon ancien travail, les collègues, hein, vraiment, ils n'étaient pas ceux qui plombaient l'ambiance, c'est pour ça que j'étais pas bien. Alors on peut changer de travail. Mais si on va dans un nouveau travail où on gagne plus, on a des nouveaux collègues super sympathiques, entre guillemets, mais si on y va avec le même cœur, eh bien, au bout de quelques temps, on se retrouve avec ce cœur douloureux où résonne tellement ce vide immense à l'intérieur. On peut changer de ville, de région, de pays, en disant « la France ». Quelle mentalité ces Français, des losers, des rouspéteurs, jamais contents, etc. Les Français, c'est vraiment, ils ne sont pas intéressants. Alors on va aller à l'autre bout de la terre, n'est-ce pas? Là-bas, c'est mieux, c'est nettement mieux, à l'autre extrémité de la terre. J'ai une amie qui, il y a quelque temps, et depuis un certain temps, était mal dans sa vie. Et puis elle avait entendu parler de la Nouvelle-Zélande. En bien, et on disait que du bien de la Nouvelle-Zélande, un pays magnifique où tout est beau, tout est rose. Je ne sais pas si c'est parce que le Seigneur des Anneaux a été tourné là-bas, je ne sais pas, bref, mais bon. Alors elle s'est dit, je vais faire mes valises, je vais aller en Nouvelle-Zélande. Alors elle a fait ses valises, elle a pris son billet d'avion, elle a fait je ne sais combien d'heures ou de jours d'avion, de correspondance, etc. Elle s'est installée en Nouvelle-Zélande, et puis au bout de 6 mois, je l'ai vue revenir avec ses valises et avec son cœur douloureux, où résonnait toujours ce vide immense à l'intérieur. Parce que ce n'est pas le pays où on vit qui change notre cœur. On peut continuer longtemps comme cela, n'est-ce pas? On peut au besoin aller encore plus dans l'extrême. On peut au besoin changer de conjoint en disant que si notre cœur va pas bien, c'est à cause d'elle ou de lui, c'est à cause de l'autre. C'est lui ou elle qui en est responsable. Alors on peut faire éclater le couple, on peut faire subir des souffrances innommables à l'ex-conjoint, aux enfants, etc. Aller reconstruire ailleurs avec une fleur entre les dents, etc. Non, c'est ça qui va changer ma vie. Mais si on y va avec le même cœur, eh bien, au bout de peu de temps, on se retrouve avec ce cœur douloureux où résonne tellement ce vide immense à l'intérieur. On peut accuser les autres des raisons de notre malaise, de notre mort spirituelle quelque part, en disant « c'est pas de ma faute, c'est les circonstances, c'est les autres ». On peut tout changer autour de nous. Mais finalement, vous savez, rien de nouveau sous le soleil. Parce que lorsque on regarde à l'origine de la création, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève désobéissent à l'ordre de Dieu, eh bien, que dit Adam lorsque Dieu va le voir ? Quelle toupet à Adam, pardonnez-moi l'expression, mais il dit à Dieu, écoute, c'est celle que tu as mise là qui m'a donné du fruit. D'un air de dire, mais écoute Dieu, moi si tu ne m'avais pas mis, voilà, Ève ici, moi je serais resté nickel, c'est elle qui m'a donné du fruit, moi je suis responsable. Alors si on est irresponsable, ben en fait on n'est pas coupable, on est responsable de rien en fait. Mais c'est cette déresponsabilisation, en fait, eh bien, qui fait que notre malaise grandit. On peut tout changer autour de nous, mais si on ne reconnaît pas, en fait, qu'on est mort spirituellement et qu'on a besoin de naître de nouveau, eh bien, ça ne change pas le cœur de l'homme, ça ne change pas la racine du malaise, ça n'apaise pas la soif. La Bible nous dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Gratuitement, gratuitement. Et en parlant d'eau, il y a cette phrase qui me vient à l'esprit qui dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Cette phrase, vous savez, c'était la question de quelqu'un qui venait de comprendre le sacrifice de Jésus à la croix, cette vie nouvelle que Jésus offrait grâce à son sacrifice et qui voulait vivre ce temps de baptême et ce temps d'engagement que Dieu nous demande. Voilà, de passer par les eaux du baptême lorsqu'on veut le suivre, c'est une demande que Dieu nous demande, que Jésus nous demande, d'être baptisé en signe d'obéissance. Alors, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Rien n'empêche que aujourd'hui, si tu n'es pas né de nouveau, tu puisses naître de nouveau. Rien n'empêche que tu ressuscites avec le Christ, que ta soif soit apaisée par cette eau que Dieu donne gratuitement. Rien n'empêche d'être baptisé en signe d'obéissance, de témoignage de cette résurrection avec le Christ. Rien n'empêche, parce que tout a été accompli par Jésus-Christ à la croix du Calvaire il y a 2000 ans de cela. Rien n'empêche. Ou peut-être si. Il y a peut-être un élément qui empêche, mais cet élément, c'est toi. Cet élément, c'est toi, c'est ton orgueil, ton étiquette, ton personnage. Le fait que tu sois amené à reconnaître que tu es mort, spirituellement parlant, que tu as soif, que tu ne sais pas où est le chemin, la vérité, la vie, et que tu as besoin de cette nouvelle naissance et de cette obéissance par les eaux du baptême. Et peut-être ce matin, certains sont venus comme Nicodème, par curiosité, par soif, peut-être prêts à en découdre avec ce Dieu que vous connaissez mal, mais avec cette crainte du qu'en dira-t-on, cette crainte du regard de l'autre. Mais ce matin, Jésus invite en toute simplicité, viens dans la lumière du Christ, tel que tu es, tel que tu es. Ça ne sert à rien de se cacher. Parce que Dieu, nous dit la parole, sonde les cœurs et les reins. Et il sait au plus profond de vous-même ce que vous essayez de cacher aux autres, voire même de vous cacher à vous. Et peut-être ce matin, certains sont venus avec une oppressante sensation comme celle d'avoir un voile obscur devant vos yeux, un voile qui pèse, un voile qui étouffe, un voile qui opprime, qui vous empêche de voir la beauté de la vie. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que le voile qui vous sépare de Dieu est déchiré. Ce voile qui, dans le temple, séparait le lieu saint du lieu très saint, eh bien, ce voile, il est déchiré de haut en bas. Le jour où Jésus donne sa vie pour que vous puissiez naître de nouveau. Ce voile qui mesurait quelques 10 cm de tissu qui était indéchirable, tellement il était solide, eh bien, ce voile est déchiré de haut en bas. Le moment où Jésus-Christ, tout est accompli, tout est accompli. Il donne sa vie pour que vous puissiez naître de nouveau, revivre, être réconcilié avec Dieu. Et vous permettre d'avoir au contact, au travers du sacrifice de Jésus, eh bien, un accès et un contact, une communion directe avec Dieu. Mais pour cela, il faut venir à la lumière du Christ. Venir à la lumière du Christ, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est pas simplement suivre des préceptes comme Nicodème le faisait, mais c'est simplement accepter que cette lumière chasse nos ténèbres, c'est accepter de mourir à soi-même, c'est accepter que le Christ, par son œuvre en nous, nous façonne et nous redonne notre dignité, notre vraie valeur, celle qu'on avait perdue en étant sous l'esclavage du péché. C'est accepter de le suivre, de lui obéir, de passer par les eaux du baptême, de naître de nouveau. Alors, nous pouvons revenir à cette histoire de Nicodème. Jésus dit à Nicodème, « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. » Et dans ce préféré, il y a ce choix que Dieu laisse à chacun. Préféré. La Bible, c'est le livre du choix. Ce texte que j'ai lu, Dieu qui dit dès l'origine, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Et Jésus aussi qui dit « Nul ne peut servir de maître, car soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Nous avons le choix, nous avons le choix. Et pour revenir à Nicodème et finir avec cette histoire de Nicodème, on ne sait pas comment Nicodème est reparti ce soir-là, enfin cette nuit-là, s'il est retourné tranquillement finir sa nuit, s'il est retourné travailler dans son Sanhédrin le lendemain. Mais si vous continuez la lecture de l'évangile de Jean, ce que je vous conseille de lire la Bible si vous ne la lisez pas ou si vous n'avez jamais lu les évangiles, on retrouve Nicodème quelques chapitres plus loin et quelques mois plus tard avec un peu plus de courage que cette nuit où il est venu trouver Jésus. Et on voit que les mots de Jésus ont commencé à travailler son cœur, à travailler son esprit. Parce que dans Jean, au chapitre 7, au verset 50, vous pourrez lire ou simplement noter la référence, mais on voit que ses collègues du Sanhédrin veulent accuser et condamner Jésus. Et Nicodème, il se lève dans le tribunal et face à tous ses collègues, il se lève, il les interpelle et il leur dit « Mais notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Souvenez-vous, Nicodème était venu de nuit voir Jésus, et là, en plein jour, il se lève, il s'oppose à ses collègues du Sanhédrin. Et puis, nous pouvons continuer notre lecture de l'évangile de Jean et voir que les paroles de Jésus ont fini par briser les ultimes résistances de Nicodème, parce que Nicodème, au péril de sa vie, a aidé Joseph d'Arimathée à descendre le corps de Jésus de la croix, et il a porté un mélange d'aromates très coûteux pour ensevelir Jésus comme cela était la coutume à l'époque. Un livre de tradition juive rapporte que pour ce geste d'avoir aidé Joseph d'Arimathée à descendre le corps de Jésus de la croix, Nicodème, dans les jours qui ont suivi, Nicodème a été renvoyé du Sanhédrin. Nicodème a été spolié de tous ses biens, renvoyé devant tout le monde, humilié devant tout le monde. Lui qui, quelque temps auparavant, était venu en se cachant pour voir Jésus. Mais quelque part, cela n'avait plus trop d'importance pour Nicodème, parce qu'il avait vu le Christ crucifié, parce qu'il avait vu le Christ ressuscité, parce qu'il avait trouvé le chemin, parce qu'il avait trouvé la vie. Et il savait que ce chemin, cette vérité et cette vie n'avaient pas de prix sur cette terre. Alors, Nicodème était venu en douce et de nuit pour poser ses questions à Jésus. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vient à la porte du cœur de chacun et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je vous invite à un court temps de recueillement pendant lequel nous pouvons courber notre front et puis peut-être laisser résonner dans notre cœur ce que nous avons entendu de cette histoire de Nicodème, de ce Nicodème qui réalise son malaise mais qui a honte de le dire, qui vient de nuit voir Jésus et puis qui, au contact de Jésus, avec ses paroles de Jésus, est transformé et accepte de suivre Jésus quoi qu'il lui en coûte. Quoi qu'il lui en coûte, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vie en abondance sur cette terre et la vie pour l'éternité. Mais ce choix qu'a fait Nicodème, c'est de venir dans la lumière. Et ce matin, Jésus interpelle : « Veux-tu venir dans ma lumière ? je me tiens à la porte et je frappe. Je vous laisse pendant quelques instants en dialogue avec le Saint-Esprit qui est là, ici, ce matin, dans ce lieu, et puis qui vous interpelle. Qui vous interpelle, où en êtes-vous de votre chemin sur cette terre? Êtes-vous vivant? Êtes-vous vivant ce matin? Si vous n'êtes pas ce matin, vous pouvez ouvrir la porte de votre cœur et naître de nouveau, accepter cette nouvelle naissance et suivre Jésus dans cette nouvelle vie, cette vie en abondance qu'il vous propose, cette vie remplie de paix, de joie, avec des tempêtes bien sûr, mais des moments où il sera là. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est sa promesse. Voilà quelques instants de silence où Jésus vous questionne. Veux-tu me suivre? Veux-tu naître de nouveau? La réponse est dans votre cœur. Je finirai par la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cet exemple de Nicodème que tu nous as laissé et qui nous instruit. Merci pour ce parcours qu'a pu vivre Nicodème. Et Seigneur, je te remets chacune des personnes qui est là ce matin. Seigneur, tu connais les vies, tu connais les parcours de chacun. Tu sais où chacun en est de sa vie terrestre et de sa vie spirituelle. Tu connais les besoins de chacun, tu connais les soifs de chacun, tu connais peut-être les réticences de chacun, mais Seigneur, ce matin tu viens pour donner la vie, pour donner une nouvelle vie. Tu n'as pas été envoyé dans le monde pour juger ou pour condamner, mais pour sauver, pour faire naître de nouveau, pour permettre cette nouvelle naissance. Alors Seigneur, je te remets chacune des personnes qui est là ce matin. Et je te remercie pour cette parole, ces paroles qui de la Bible, cette histoire de Nicodème qui est allée dans le cœur de chacun pour interpeller, pour inviter, pour montrer encore ton amour, ta fidélité, pour montrer ce tout est accompli de la croix et pour montrer ce choix que chacun a à faire. Seigneur, je te prie pour que chacun puisse réaliser l'importance de ce choix et la beauté de ce choix, Seigneur, et que personne ne puisse repartir de ce lieu, Seigneur, en étant mort spirituellement, mais que chacun, Seigneur, puisse repartir avec toi, dans son cœur, dans sa vie, comme sauveur, comme Seigneur. Merci Jésus, parce que tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton amour ne change pas. Et je te remercie pour tout ce que tu veux faire dans la vie de chacun de mes bien-aimés qui est là ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce tout est accompli de la croix. Seigneur, à toi seul, soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
Merci beaucoup Manu pour tout ce que tu nous as apporté ce week-end. Je termine par ce verset de l'Apocalypse qui m'est venu, que tu as cité d'ailleurs. Et j'avais jamais autant remarqué ce qui est écrit ici. L'esprit et l'épouse disent « viens ». Que celui qui entend dise « viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Il est écrit « l'esprit et l'épouse ». C'est intéressant. L'esprit de Dieu nous invite chacun à venir à cette source dont tu as parlé, la source de la vie gratuitement. Mais pas seulement l'Esprit de Dieu, l'épouse aussi. L'épouse, c'est l'Église. Et au fond, nous sommes ici sur terre pour un seul message, hein, c'est d'inviter les pécheurs à venir auprès de Jésus, à puiser l'eau de la vie qu'il offre gratuitement. Et c'est notre mission, c'est particulièrement ta mission, Manu, parce que tu es un évangéliste. Et avant de terminer, j'aimerais peut-être demander à Ryan et Raph, si vous voulez bien prier pour le ministère. Manu se déplace beaucoup dans les églises, dans les prisons, partout où le Seigneur l'appelle, hein, pour annoncer ce message. Il a besoin aussi de soutien et de renouvellement. Voilà, si vous voulez. Alors, je vous rappelle que le concert d'hier soir a été enregistré, hein, donc il repassera sur la Saint-Quentinoise Radio jeudi à 18h30, pour ceux qui n'étaient pas là. Et si vous avez le temps, vous pouvez l'écouter. Ceux qui le veulent peuvent rester pour une agape, un repas ensemble. Et puis pour l'église, cette semaine, jeudi à 19h30, il y a étude biblique ici, suivie de la réunion de prière. Voilà, bon dimanche à tous, merci pour votre présence.